Lizzie présente Erectus, l'armée de Darwin, de Xavier Muller. Lu par Renaud Bertin. À Prune et Paola. Prologue. Il y a maintenant un peu plus de 7 ans, l'humanité a bien failli être dévastée par une pandémie éclair qui a changé la face du monde. Issue des manipulations hasardeuses d'un laboratoire, le virus Kruger a fait régresser les espèces de plusieurs millions d'années. La faune, la flore, mais aussi les hommes, changés en Homo erectus et plongés dans un cauchemar, frappés d'amnésie. Anna Meunier, paléontologue atypique dans le monde de la science, Stephen Gordon, médecin directeur du département des maladies transmissibles à l'OMS, et son adjoint, Lucas Carvalho, se sont lancés dans une course contre la montre pour enrayer ce processus terrifiant d'inversion de l'évolution. Yann, le compagnon d'Anna, a lui-même été contaminé par le virus. Il est devenu un erectus, et pour Anna, un étranger. À l'instar de ce chercheur en biologie marine qui sillonnait les océans avant d'arborer les traits d'un être préhistorique, quelques 100 000 hommes, femmes et enfants ont subi cette métamorphose qui menaçait de contaminer le reste de la population. Tandis que des extrémistes en appelaient au génocide des erectus, ceux-ci étaient parqués dans des centres de rétention, parmi lesquels le zoo de Vincennes. Grâce aux antiviraux découverts par Lynn Wissnar, une biologiste suédoise prix Nobel de médecine, la pandémie a été contenue in extremis. Les premiers hommes ont ensuite été parfaitement protégés dans 3 réserves sur les continents africains et sud-américains, ainsi que sur le sous-continent indien, dans lesquels ils vivent libres et autonomes. Mais d'abord déclarés stériles, les erectus se sont avérés capables de se reproduire. Cette incertitude et l'absence d'un vaccin ont fait émerger à nouveau partout dans le monde un courant anti-erectus, violent et radical, prônant leur stérilisation. Entre-temps, Anna est devenue directrice de la réserve au Kenya et du Center for Living Prehistory, le centre de la préhistoire vivante, où Yann évolue en pleine nature avec ses semblables. Elle consacre sa vie à l'étude des erectus et à l'éducation d'Alice, la fille qu'elle a conçue avec Yann lorsqu'il était encore sapiens. Celui qu'on appelle désormais « Oreille cassée » est le chef du clan de la pierre levée. Elle n'a qu'un espoir, retisser le lien avec l'homme qu'elle aimait, et protéger la communauté des erectus des menaces de plus en plus nombreuses qui la visent. Mais c'était compté sans le virus, et sans la deuxième vague. Partie 1. Après le Kruger. Chapitre 1. Grande réserve du Kenya, J-30. Trois ombres détalées à travers la plaine, courbées dans l'effort. Leur vitesse était surprenante, même à cette distance. « On les tient !» La radio crépita, pas assez pour masquer la jubilation de Ben qui conduisait le second Hummer. Ricky répondit d'une voix neutre « Je les vois » et accéléra légèrement. Il vérifia le radar de drone, rien dans les 100 km. Logiquement, il serait tranquille pendant au moins 2 heures. Ben observa le nuage de poussière qui s'élevait derrière eux. Chaque essieu était équipé d'une soufflerie, une méthode simple mais efficace pour effacer leurs traces. D'habitude, les raids se faisaient en hélico furtif, mais depuis que la couverture aérienne avait été renforcée, Owen Furse, le patron, avait ordonné de se concentrer sur les clans d'Erectus proches de la frontière électrifiée. Frapper vite, prélever tout ce qui peut l'être, c'était le nouveau mode opératoire. À l'arrière du véhicule, Georg remuait, vérifiant leurs armes. À 50 ans, l'Ukrainien restait l'un des meilleurs commandos de la bande. Rapide, brutal et sans scrupules. Avec Ben, il s'était porté volontaire pour le sale boulot, tandis que Ricky et Tommaso se chargeaient des captures. À eux quatre, ils formaient un groupe suffisamment mobile et parfaitement entraîné. Ricky se mit à sourire. L'adrénaline lui procurait chaque fois le sentiment de vivre à fond. Bien meilleur qu'un rail de coke. Chapitre 2. Lodge du Centre de la Préhistoire Vivante, CLP, Kenya, J-30 et J-29. Anna hésita longuement devant le miroir en pied. La robe mettait en valeur sa silhouette élancée, mais il faudrait enfiler une paire de talons et elle craignait d'envoyer un message trop explicite. Son visage était marqué par la fatigue. « J'aurai bientôt 45 ans, » songea-t-elle en examinant les fines ridules qui griffaient ses tempes. Alice, sa fille, appelait ça les étoiles de ses yeux. Anna avait perdu l'habitude de faire des efforts de coquetterie. L'essentiel de sa penderie se résumait à des pantalons de toile, des t-shirts, un chapeau de brousse et ses inévitables paires de baskets montantes. « Tu as peur qu'il te demande en mariage ?» Alice se tenait sur le seuil de sa chambre, les yeux brillants de malice. À 7 ans, elle ne lui ressemblait en rien. Cela la surprenait parfois, presque au malaise. Anna était brune avec des yeux verts et sa beauté l'avait souvent handicapée dans un milieu où l'intelligence s'appariait davantage à des physiques franchement moins spectaculaires. Alice serait ravissante, mate de peau, les pommettes hautes, le nez légèrement épaté, la bouche rouge et charnue. Elle atteignait déjà sa mère aux épaules. Les yeux d'un bleu perçant adoucissaient l'impression de sauvagerie, sauf quand elle se butait ou se mettait en furie. Elle était d'une étonnante maturité, et la plupart des gens lui donnaient 11 ou 12 ans. Le plus déroutant, néanmoins, restait son exceptionnelle clairvoyance. Anna répliqua d'un ton désinvolte, soucieuse de ne pas laisser voir son trouble. « Mais pourquoi tu dis ça? C'est un ami ?» La petite poursuivit avec un sérieux matiné d'ironie. « Maman, tu crois que je vois pas comme il te regarde? Et toi ?»«
Moi quoi ?»«
Lucas t'adore, il te vénère et il est divorcé. Et vous avez une histoire depuis l'Antiquité, alors ?»«
Alors quoi, mademoiselle, je sais tout. De toute façon, nous n'avons pas d'histoire, comme tu dis. »
Alice savait qu'elle avait dépassé la limite. Avant de se faire réprimander, elle enlaça sa mère et pressa sa joue contre son ventre. Elle ferma les yeux et sentit la tristesse qui émanait d'elle. Elle aurait voulu lui rendre sa joie, supprimer toutes ses inquiétudes. Mais sentir les choses ne suffisait pas toujours. Anna se glissa hors du lit. La pendule indiquait 8 heures. Ils avaient fait l'amour toute la nuit, passionnément. Lucas Carvalho dormait, étalé en étoile de mer. Elle frissonna en songeant au plaisir qu'elle éprouvait dans ses bras. Il la connaissait parfaitement et il l'aimait. Assez pour lui demander de réfléchir à leur relation. Mais on ne devient pas un couple quand 6 000 kilomètres vous séparent, plus un mariage raté et des souvenirs trop lourds. Elle prépara du café, mit la table pour deux. Dehors, les employés s'affairaient déjà aux tâches quotidiennes. Personne ne venait la déranger quand elle recevait, sauf en cas de coup dur. Elle contempla le jardin clos, son luxe d'expatriée. Un acacia majestueux en forme de parasol se dressait devant l'aile principale du lodge. Le bâtiment en L se composait de 3 bungalows, reliés par une véranda ouverte, qui alliait modernisme et tradition swahili. Adossé à la grande réserve, le lieu avait quelque chose d'un Éden. Anna l'adorait, autant pour le sentiment de sécurité que parce que les gens qu'elle aimait y vivaient. La veille, elle avait raconté à Lucas combien Mary Abiker faisait merveille à l'intendance. Puis elle avait parlé de Kyle, le fils de Mary, qui venait de fêter ses 20 ans, et de Nye, le grand-père adulé, soudainement métamorphosé en Erectus. Avant d'être contaminé par le virus régressif, Nye s'appelait Danny Abiker. Il était responsable du refuge animalier de l'extraordinaire parc Kruger en Afrique du Sud. Un homme admiré de tous, doux, cultivé, doué d'un incomparable sens du monde animal. C'est lui qui avait découvert la première bête préhistorique vivante, un gonfotérium, version ancestrale de l'éléphant.